Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
André Crépin, bonjour.
Je suis flatté de vous rencontrer.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, angliciste. Vous êtes un linguiste spécialisé dans la littérature médiévale. Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 2002 et vous venez de publier une édition critique des contes de Canterbury et autres œuvres de Geoffrey Chaucer dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu. Nous allons aborder aujourd'hui avec vous la vie et l'œuvre de Chaucer pour justement inviter nos internautes à découvrir cette nouvelle édition critique qui est la somme de plusieurs années de travail. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez sur cet immense écrivain, cet immense poète, pour vous probablement le deuxième après Shakespeare si on peut les placer dans un ordre quelconque. André Crépin, pourquoi d'abord en France Chaucer est-il si peu connu ?
Oui, c'est un fait que Chaucer, qui est, comme je le dis, peut-être le second plus célèbre poète anglais, est peu connu en France pour plusieurs raisons. La plus importante est que on pense que ce n'est qu'un adaptateur. Donc, s'il adapte Boccace, pourquoi ne pas aller à la source et lire Boccace ? Mais ça, c'est une erreur grave, parce que justement, Chaucer, comme tous les médiévaux et vraisemblablement la plupart des écrivains, ne part pas de zéro. Il recrée, il réorganise, il réinterprète à sa manière une matière déjà donnée. Donc là, il y a un faux sens qui est évidemment grave. La seconde raison, c'est que nous pensons que nous avons beaucoup de conteurs. Et donc, on pense à Maupassant, à Anatole France. Enfin, c'est vrai que la littérature française est riche en conteurs. Mais les contes de Chaucer sont vraiment typiques du Moyen-Âge et typiques, très originaux, de Chaucer lui-même. En outre, Chaucer n'a pas écrit que les contes de Canterbury.
C'est ça, là, justement, l'originalité de cette publication.
C'est vrai. Et parfois, je regrette d'ailleurs le titre.
Et
mais
autres
c'est
œuvres.
Le titre, si vous voulez, pour attirer l'attention des gens qui, à la rigueur, connaissent au moins le titre « Les contes de Canterbury » et le film de Pasolini. Alors donc, pour vendre le livre, les éditions Laffont ont préféré mettre « Les contes de Canterbury » et autres œuvres, alors que j'avais proposé, moi, œuvre complète. Parce que c'est vraiment l'originalité de ce volume, de réunir toutes les œuvres de Chaucer.
Donc, on y trouve à la fois les contes de Canterbury, on y trouve des poèmes attribués à Chaucer, bien sûr, une traduction du roman de la Rose. Alors, d'autres textes que moi, je ne connaissais pas du tout, hein, le Palais de Renommée, Annélide et le traître Arcite, le Parlement des oiseaux. Bon, et puis, il y a Troïlus et Criseyde, dont vous allez probablement nous parler, La légende des dames vertueuses, Un traité de l'astrolabe. Enfin bon, beaucoup de choses qui nous permettent de voir que cet homme était vraiment complet dans ses arts.
C'est vrai que, vous voyez, Chaucer est à réhabiliter auprès des Français parce qu'on s'arrête non seulement au comte de Canterbury, mais au comte un peu, enfin, grivois, enfin, les fabliaux médiévaux. Or, c'est vrai qu'il y a des contes grivois, mais à côté de cela, il y a des contes sérieux. Et surtout, Chaucer a écrit beaucoup d'autres choses. Je suis content, par exemple, de la collaboration de mon confrère Emmanuel Poul, qui est un spécialiste des horloges astronomiques et qui a bien voulu traduire et commenter le traité de l'astrolabe et l'équatoire des planètes, qui sont vraiment des traductions ou des compilations extrêmement techniques, mais qui font voir que Chaucer avait un côté scientifique inattendu, mais typique quand même de l'humanisme. Parce que Chaucer est vraiment représentant, bon, du Moyen-Âge, hein, d'un côté, c'est vrai, par exemple par ses fabliaux, mais surtout un humaniste. Et je pense qu'il fallait réhabiliter un petit peu cet éventail des intérêts de Chaucer.
Alors, on va peut-être revenir au poète. d'abord peut-être présenter un petit peu sa vie avant de rentrer à nouveau dans les contes. Chaucer a été aussi un homme de cour, un militaire. Il a un parcours un petit peu atypique. Il a reçu une éducation. Déjà, vous parliez de son humanisme, mais à la base, il a reçu également une éducation assez poussée. Il connaissait plusieurs langues. Racontez-nous un peu la formation de ce grand poète.
Vous voyez, Chaucer est en effet très plongé dans la vie active de l'Angleterre du XIVe siècle. Bon, d'abord par sa famille. Son grand-père et son père étaient des importateurs de vin de Bordeaux, de vin de La Rochelle. Et donc, déjà, il y avait une tendance à la connaissance de plusieurs langues et aussi au fait de connaître d'autres cultures. Et d'ailleurs, le père de Chaucer a accompagné le roi et d'Artois sur le continent. Et donc, c'était parce que, pas pour lui servir du vin, mais surtout pour son réseau de relations et aussi par sa connaissance des langues et des cultures. Donc, Chaucer était familialement. Et il habitait d'ailleurs, quand il était jeune, sur les bords de la Tamise, au quartier des négociants. Et ces négociants étaient flamands, italiens, d'Aquitaine, etc. Donc, si vous voulez,
vous faites
un
une
monde.
Très belle description de Londres à cette époque.
Alors,
au début.
Londres était évidemment une grande métropole. Il n'y avait qu'un seul pont, mais c'était vraiment un
lieu
centre.
De négoce.
Donc là, il a eu vraiment une expérience internationale et qu'il a conservée parce qu'après, il a été au service des princes de Jean de Gand. D'ailleurs, les fils là, font bien voir que l'Angleterre était implantée, si j'ose dire, sur le continent. Parce que vous avez l'héritier d'Édouard II, c'était le prince noir, ou qui s'appelait Édouard de Bordeaux. Il y avait Jean de Gand. Ça fait voir que les fils des rois portaient le nom des villes où ils étaient nés. Et ces villes étaient des villes continentales. Donc d'abord, Chaucer a été au service de Jean de Gand. Et puis ensuite, il a été directement au service du roi, Richard II. Et à la fin de sa vie, il a pris parti plutôt contre Richard II. Et donc, il a soutenu Henri IV. Donc, si vous voulez, voilà le fait que Chaucer était vraiment impliqué, imbriqué.
Dans la cour, dans la vie de cour.
C'est ça. Et assez curieusement, il l'était pour ses connaissances financières. Et il a donc traité en Italie avec les banquiers italiens qui étaient pas les clients, mais le contraire, dont le client était Édouard III. Et puis, ensuite, il a été envoyé en plusieurs missions, parfois des missions secrètes dont on ne sait pas très très bien quel était le but. Donc vraiment une espèce de missionnaire ou d'ambassadeur sans le titre.
Un homme précieux pour la cour quand même.
Un homme précieux pour la cour, très discret sur ses... On n'a que les témoignages indirects. Enfin, il n'y a pas malheureusement de correspondance signée Chaucer, mais il est certain qu'il avait un rôle important. Et un peu à la fois en Italie, peut-être en Espagne, et bien sûr en France, où il a combattu étant jeune. Donc, vous voyez, à la fois participant de la guerre
un
de
soldat.
100 ans, et puis envoyé en mission. C'est vraiment un homme très, très actif. On est même étonné à la fois de son... Et puis ensuite, contrôleur des douanes à Londres, etc. On est un peu surpris qu'il ait eu le temps...
D'écrire tout
de
ça.
De travailler à ses heures de loisirs sur la poésie. Bon, il faut dire que dans ce temps-là, il y avait moins de distractions que maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de télévision, les spectacles étaient quand même plus restreints, donc il avait peut-être davantage de loisirs.
Alors, revenons à sa formation et aux langues qu'il maîtrisait, puisque vous évoquiez tout à l'heure cet humaniste hors norme. On pense toujours aux humanistes, on va dire, d'Italie, à ce berceau-là de l'humanisme. Donc, il connaissait l'anglais, c'est à sa langue maternelle, mais il connaissait aussi le latin, l'italien, vous l'avez précisé,
oui.
L'arithmétique, parce qu'effectivement, pour écrire tous ses traités à la fin, et puis ses connaissances financières, sont liées à cette éducation générale pour cette époque. Vous faites un tour de force en reconstituant sa bibliothèque.
C'est vrai qu'il connaissait plusieurs langues. Il ne faut peut-être pas exagérer quand même ses connaissances de langue. Je pense que, par exemple, on a dit qu'il connaissait assez mal le latin, ce qui est faux, mais disons qu'il était surtout habile à manier le français. Il n'y a rien d'étonnant,
mais
parce que, comme vous
commun.
Le savez, en Angleterre, il y avait trois langues officielles. Le latin, qui héritait du Moyen-Âge, évidemment, qui était la langue du salut, de l'Église, et puis du savoir, etc. Le latin continuera à être la langue des savants, Descartes, Newton, ont écrit en latin. Bon, mais le français était la langue culturelle, disons, et donc Chaucer maniait certainement le français comme une langue naturelle pour lui. Et il a, comme mon ami collègue Wimsatt le dit, il a certainement écrit des œuvres en français. Wimsatt a retrouvé la trace dans la bibliothèque de Pennsylvanie, et vraisemblablement que Chaucer a commencé par écrire ses poésies en français.
Ah, ça, c'est étonnant.
Et puis, petit à petit, enfin, il s'est rendu compte que l'anglais était quand même en essor, que vraiment l'anglais devenait la langue de l'Angleterre. Et donc, il a décidé d'écrire tout en anglais. Ce qui était quand même une décision assez hardie, parce que lui-même le reconnaît dans...
Est-ce que c'est l'équivalent de Dante pour l'italien ?
Oui, c'est d'ailleurs Dante qui a donné le coup d'envoi, si j'ose dire, en employant la langue dite vulgaire. Et ensuite, donc, tous les États, petit à petit, se sont mis à privilégier leur langue nationale. En France, ça a été la politique de Jean le Bon et surtout de Charles V. Et en Angleterre aussi, les rois ont commencé à privilégier l'anglais. Mais il y avait toujours quand même le français. Et l'anglais, c'était une décision très grave parce que l'anglais avait beaucoup de dialectes. Et comme il n'était qu'une langue, disons... qui petit à petit s'officialisait, mais qui n'était pas encore entièrement. Donc les dialectes, il n'y avait pas de standard, il n'y avait pas de grammaire normative. Alors c'est à la fin de Troilus, Chaucer reconnaît cette difficulté en disant qu'on peut mal traduire, ou mal comprendre, mal écrire son texte, et que donc la versification, par exemple, serait épouvantable. Alors donc, là, c'est une décision très importante. Et qui est à comparer avec son contemporain et son ami, John Gower, qui est lui aussi un poète, et qui a écrit 3 grands poèmes, l'un en latin, l'autre en français, et enfin le troisième en anglais. Si bien que là, on a un problème, enfin, on est vraiment à un moment, à un tournant de l'histoire de la littérature anglaise, qui va devenir vraiment anglaise. C'est pourquoi Dryden, plus tard, dira que Chaucer est le père de la poésie anglaise.
Donc là, on parle un petit peu des langues, de la langue de l'époque. Quelle identité Chaucer a-t-il donné justement à la langue anglaise ?
Oui, c'est un problème important, problème de linguistique, et qui est assez débattu. C'est-à-dire, à première vue, si vous voulez, il est un innovateur en ce sens que son anglais est très influencé par le continent, le français. Et ça reste une vérité. Alors reste à savoir s'il est le pionnier ou si d'autres ont fait la même chose. Et donc je pense que, bon, son œuvre apparaît comme une œuvre de pionnier parce qu'elle a subsisté et qu'elle est de première grandeur, d'une valeur littéraire incontestable. Mais c'est quand même, si on regarde tous les mots, ce n'est pas lui qui fournit la première attestation de ce mot qu'on aurait pu croire est importé par Chaucer. Mais il est certain que Chaucer a dû paraître, à certains, un importateur presque dangereux, parce qu'il y avait quand même une tradition poétique anglaise, avec l'allitération, un vocabulaire très enraciné, même peut-être un peu obsolète, tandis que lui, vraiment, importe les traditions du continent, l'influence du roman de la Rose, dans une certaine mesure, l'allégorie, etc. Donc, son mouvement, enfin, ses caractéristiques, ont pu paraître révolutionnaires à certains. Et c'est ce qui explique que, dans les Contes de Canterbury, il se donne la parole lui-même et il donne un petit poème sur le chevalier Sir Topaz, qui est une parodie des romans chevaleresques, enfin versifiés, de son époque. Et là, on voit donc qu'il y avait 2 courants littéraires et 2 courants opposés. Il y avait certainement un clan traditionnaliste, et lui, Chaucer, était pour la nouveauté importée de France. Et donc, cela devait soulever quelques hostilités.
Donc, c'est un personnage particulièrement audacieux, quand même, dans ses libres, audacieux, qui n'hésite pas à remettre en cause l'art. On va peut-être revenir sur ce qui fait sa célébrité, quand même, pour nous tous, même si, justement, la publication de cet ouvrage, Les Contes de Canterbury et autres œuvres, nous font découvrir un autre pan de son œuvre, justement. Revenons sur ces contes qui ont fait sa célébrité. On a des manuscrits de Chaucer et je voudrais que vous nous présentiez un petit peu ces contes. Comment est-ce qu'on les a découverts? Comment ils ont été imprimés, bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait et quel est leur intérêt? Parce que c'est ce qui est le plus accessible et ce qu'on connaît.
Bien sûr, les contes sont un genre traditionnel, j'allais dire éternel. Mais les contes de Canterbury, enfin moi je me les représente comme une œuvre faite graduellement. C'est-à-dire, vous savez, les peintres ont souvent dans leur atelier des tableaux de différentes époques, plus ou moins achevés, etc. Moi je pense que Chaucer c'est la même chose. Il a composé certains contes, certains poèmes, il les a laissés inachevés, puis il les a repris, etc. Si bien qu'il a laissé à sa mort un tas de papiers,
on dit que l'œuvre est inachevée, en fait.
Et donc, qui ne sont pas entièrement fignolés. Enfin, c'est-à-dire, donc, l'ordre des contes, même leur cohérence interne, laisse à désirer, c'est sûr. Et on a donc plusieurs points de vue. Et les éditeurs ont proposé différents ordres de contes et aussi ont parfois réécrit la fin de certains contes. Donc, comme toute œuvre importante, il y a des problèmes. Parce qu'à sa mort, donc, il n'a pas laissé achever et fini ses contes. Mais enfin, ces contes étaient déjà connus. Parce qu'au Moyen-Âge, et au-delà même, au XVIIe siècle encore, les œuvres circulaient souvent en manuscrit. Et donc les gens en avaient connaissance, on en discutait, etc. Alors même qu'il n'y avait pas de parution officielle et standard. Alors donc, c'est ce qui s'est passé. Tandis que par exemple, pour Troy le Sacricide, qui est l'autre grand poème de Chaucer, là nous avons une œuvre terminée.
Achevée,
oui.
Complète.
Ou qui pose encore quand même quelques problèmes, mais enfin, beaucoup moins importants.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des personnages des contes de Canterbury?
Les personnages des contes, alors, sont extrêmement variés. Ça donne un tableau de la société médiévale, enfin, disons, assez complet, bien qu'il manque les deux extrémités, c'est-à-dire les puissants, qu'ils soient les seigneurs ou bien les prélats, ne participent pas aux contes. De même, les miséreux, les vagabonds n'apparaissent guère dans les contes. Et ils ne sont pas, en tout cas, parmi les pèlerins. Dans la trentaine de pèlerins, nous avons surtout, disons, les classes moyennes. Et alors, c'est peut-être dû à la prudence de Chaucer. C'est peut-être dû au fait que ces pèlerins vont d'hôtel en hôtel, donc les seigneurs allaient quand même plutôt de château en château. Donc là, il y a les deux justifications. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que, et ça se verra peut-être à mes réponses, c'est que pour Chaucer, il y a toujours plusieurs solutions, plusieurs explications. Il est très prudent, mais aussi il y a des explications matérielles, et là c'est un exemple. Et alors, les pèlerins sont vraiment, bon, d'abord décrits dans le prologue général, et là, ce sont des portraits hauts en couleur. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est l'interaction des pèlerins entre eux, de leurs contes, etc. C'est tout
un monde
vivant, et vraiment, qui s'enguirlande, qui se complimente aussi. Enfin, c'est vraiment très, très vivant. Ça, c'est l'originalité de Chaucer, parce que si vous prenez d'autres contes, par exemple de Boccace, c'est le Décaméron, c'est 10 journées, mais enfin, les gens disent leurs contes sans relation entre conteurs ni entre contes.
Ça fait une œuvre extrêmement dynamique, du coup.
Dynamique, c'est ça.
Structurée,
oui. De façon... Bon, d'abord, il y a quand
même... On
dirait
presque interactive.
Il y a quand même un sens, c'est-à-dire, je pense que le dernier conte, enfin, conte entre guillemets, qui est une espèce de sermon du curé, bon, il est d'ailleurs absent dans toutes les éditions, enfin, dans la plupart des éditions anglaises et dans toutes les éditions de traduction française, parce que les gens le trouvent ennuyeux. Mais c'est une erreur, parce que, bon, d'abord, c'est la fin du pèlerinage. Il y a quand même un sens spirituel, religieux. On va à Canterbury, et alors, à la fin, c'est une espèce d'appel à la Jérusalem céleste. Et je crois, enfin, que si on veut avoir une bonne idée des valeurs spirituelles, pas de la réalité, mais de l'idéal médiéval. Et c'est un bon résumé dans cette prestation du curé, mais qui elle-même, d'ailleurs, n'est pas entièrement originale. Là aussi, nous avons des sources bien précises, mais elles sont quand même réorganisées par Chaucer et elles expliquent beaucoup des contes précédents.
Qu'est-ce qui a fait le succès de cette œuvre-là, par exemple, qui a, là, elle, défié le temps?
Le succès des contes
de Canterbury.
Je crois que le succès tient à certains personnages. Par exemple, la Borsasse de Bath était un personnage connu, même alors que Chaucer l'écrivait, si j'ose dire. Donc c'était vraiment un et c'est devenu un personnage pas aussi célèbre, mais quand même un peu un mythe comme Don Juan, etc. Là, nous avons une féministe avant la lettre, et vraiment haute en couleur, et donnant des arguments très intéressants. Donc à la fois une personnalité forte, qui ne monte pas en Amazone sans cheval, mais à califourchon, pour bien montrer son caractère viril, mais en même temps vraiment féminine. Donc c'est un personnage très très intéressant, et qui donc était célèbre. Je pense que les contes ont dû leur succès, notamment à des personnages tels que la bourgeoise.
Et vous écrivez que Chaucer écrivait aussi pour les femmes à l'époque, c'était pas très courant. Au-delà du fait qu'il dépeigne une femme, s'adressait-il aussi aux femmes qu'aux hommes, à une époque où justement les sources sont muettes sur les femmes, presque?
C'est très juste.
C'est vous qui dites.
C'est moi qui le pense, mais je pense que, en effet, Chaucer, peut-être par son statut social, enfin je veux dire, il était par exemple marié à une suivante de Jean de Gand, enfin de la femme de Jean de Gand, donc il a peut-être eu des influences féminines, mais il écrit, c'est évident, notamment, spécialement pour les femmes. Si on lit par exemple la conclusion un peu inattendue, enfin l'une des conclusions inattendues de Troilus et Criseyde, il prend soin de dire, attention, Criseyde semble infidèle, mais combien d'hommes sont plus infidèles qu'elle, etc. Et il promet justement d'écrire un poème qui sera la légende des dames vertueuses pour compenser un petit peu. Je pense que, et il donne dans ses contes, etc., il donne la parole aux femmes. C'est-à-dire, bon, que les femmes aient été les protagonistes de beaucoup de contes, c'est évident dans les fabliaux. Les femmes
sont présentes, bien sûr.
Sont à la fois rusées, etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il prend souvent un point de vue, le point de vue des femmes. Par exemple, bon, évidemment, dans la bourgeoise de Bath, bien sûr, mais aussi dans d'autres contes où les femmes ont le beau rôle. Par exemple, le conte du Franklin, où la femme est prise entre des promesses contradictoires, etc. On partage son... Et on admire aussi son honnêteté. Enfin, c'est vraiment. Je pense que non seulement les femmes sont souvent les protagonistes, ce qui est assez banal, mais c'est le point de vue des femmes que prend Chaucer.
Ça, c'est plutôt rare.
Et ça, c'est. Bah, oui, c'est, oui c'est,
on n'a pas l'équivalent, d'après ce
vrai,
que je comprends.
C'est vrai, c'est assez rare.
Revenons peut-être à Troïlus et Criseyde, que vous nous présentez comme justement le chef-d'œuvre, là, cette fois complet, avec une architecture bien ordonnée, etc. Le thème de cette histoire est emprunté à Boccace.
Ah oui, ça c'est sûr que...
C'est une histoire classique, entre guillemets.
Il y a des strophes même qui sont traduites littéralement de Boccace. Dans un premier temps, d'ailleurs, j'avais pensé mettre en gras par un signe quelconque, soit en numérotant les strophes, en mettant les strophes qui sont vraiment... emprunté à Boccace. Et puis je ne l'ai pas fait pour un peu une raison de vente, parce que justement, si on souligne un peu trop les emprunts, les gens vont dire « bon, on a compris ». Donc, et ça serait faux, parce que bon, la matière a d'abord été beaucoup augmentée par Chaucer, et surtout, il y a l'injection de toute la philosophie de Boèce. Parce que Chaucer a traduit la consolation de Dame Philosophie par Boèce juste avant ou parallèlement, et il s'en inspire beaucoup. Donc, si vous voulez, là, nous avons Boccace et Boèce. Enfin, c'est une espèce de bébé. Deux influences tout aussi importantes. Parce que le récit de Boccace est assez léger, presque fabliau. Tandis que Troilus et Cressailles, c'est vraiment une œuvre métaphysique, presque. C'est-à-dire...
C'est une histoire d'amour, mais...
Il pose énormément de problèmes. Et même, on peut trouver que c'est parfois un peu... qu'il y a des tirades de Troilus qui sont un peu ennuyeuses. Mais ça donne un sérieux métaphysique et un poids qui rend vraiment justement le... ce poème, vraiment un grand poème. Je trouve que c'est vraiment une œuvre majeure. Hein, parce que c'est... Bon, c'est paradoxal. C'est un amour difficile au début. Le double chagrin de Troilus, c'est qu'il a peine à conquérir Cressailles, puis ensuite il la perd. Donc ça fait vraiment deux chagrins. Mais alors ça pourrait être vraiment une espèce de fabliau contre l'amour, alors qu'en fait, c'est un immense hymne à l'amour. Il y a de très beaux passages. Ça ressemble beaucoup, je crois que celle qui a traduit, là, Hélène de Bildy, ça ressemble beaucoup à un opéra. Bah, c'est pas elle seule qui le dit, mais parce qu'il y a des narratifs, mais il y a aussi de grands airs. C'est une œuvre quand même très variée et très prenante.
Avec des prologues,
prologue. Oui, c'est vraiment le... Par exemple, c'est très différent de Boccace, où il n'y a pas de prologue, et là, Chaucer... Dès ses prologues, fait voir que c'est une œuvre, disons, solennelle. Enfin, il fait des invocations aux dieux de la mythologie païenne. Parce qu'un autre aspect de Troilus et Cressailles qui est très intéressant, c'est de voir une vue chrétienne, puisque un poète du XIVe siècle, une vue chrétienne sur l'antiquité païenne. Et donc, c'est assez intéressant de voir la reconstitution de l'antiquité païenne par Chaucer. Et donc, les prologues...
Il est presque un peu en avance sur... Enfin, c'est dans l'ère du temps des humanistes.
C'est-à-dire, il est en avance en Angleterre, c'est sûr. Il n'est pas en avance sur Pétrarque ou sur peut-être l'Italie. Enfin, c'est-à-dire, c'est là encore, si vous voulez, l'importation et l'importance de l'héritage continental que Chaucer a pu connaître, disons, oralement, enfin, vivant. C'est-à-dire, dans ses voyages en Italie, bon, il ne nous reste pas trace de ses conversations, mais il a dû converser avec d'autres poètes, rencontrer même peut-être Boccace, etc. Et donc, il s'est imprégné de ces nouveaux idéaux, de ces nouvelles modes d'écriture, et donc il les a appliqués en Angleterre. Et ça, c'est assez récent. Mais donc,
vous diriez que c'est un passeur de cette culture continentale en Angleterre ? Vous évoquiez justement son originalité intellectuelle à penser l'Antiquité, à poser un regard critique, regard de chrétien sur ces thèmes de l'Antiquité. Vous le décrivez avec une belle formule. Vous dites que c'est un Socrate chrétien. Vous pourriez nous l'expliquer un peu ?
Bon, d'abord, si vous voulez, il y a un rapport un peu superficiel mais évident. C'est que Chaucer n'était, enfin d'après ce qu'il dit lui-même, n'était pas beau. C'était un gros bonhomme. Il avait un embonpoint certain. Mais ce qu'il rapproche, bon, et la bonhomie, c'est-à-dire surtout dans les contes, mais même dans Troilus, par le personnage, il y a un personnage important, Pandarus, qui est l'oncle de Cressailles, et qui est à la fois rigolo et un petit peu tragique, mais donc qui apporte beaucoup d'humour à ce poème qui devrait être triste. Bon. Et donc, de Socrate, il a cette bonhomie. Mais surtout, c'est qu'il demande à ses interlocuteurs, à ses lecteurs, de réfléchir à tel ou tel problème. Il n'impose pas de solution. Dans les contes, comme dans Troilus, il y a plusieurs conclusions. C'est à nous de...
Choisir,
De choisir. Bon, d'ailleurs, c'est un choix souvent impossible, parce que rien n'est noir et blanc en ce monde, enfin tout est... Et alors là, il se rapproche un peu, enfin, c'est pas il se rapproche, mais il est proche de notre La Fontaine. Tout ici-bas est mêlé d'amertume et de charme, l'amour a ses la guerre a ses douceurs, l'amour a ses alarmes. Bon, bah c'est... Cette mixiture, je ne sais pas comment dire, ce mélange de bien et de mal inextricable pour nous, seul Dieu pourrait faire le choix. Donc ça, c'est vraiment sa grande leçon morale. Et donc, il pose des questions, sur beaucoup de choses, sur le pouvoir, sur l'avarice, sur l'amour, etc. Mais il n'impose pas de solution. Il suggère simplement. Et ça, c'est, je pense que c'est très, très socratique, très, enfin, très proche de notre La Fontaine, mais enfin assez rare, surtout pour les écrivains chrétiens qui pensent devoir donner un message clair et net. Le message de Chaucer, le message chrétien, à mon avis, ne fait pas de doute, mais il est présenté d'une façon beaucoup plus nuancée.
Vous, quel serait les passages ou le conte que vous préférez ou le poème que vous aimez le plus?
Là, vous me prenez un peu au dépourvu parce que j'avoue que tous les... Bon, il y a des œuvres de Chaucer que je n'aime pas. Hein. Enfin, que je n'aime pas. Par exemple, je tire mon chapeau à mon confrère Poul, qui a bien voulu traduire et commenter les œuvres techniques. Mais enfin, j'avoue que l'astronomie... Par exemple, je suis en admiration devant le poème La complainte de Mars et de Vénus. Ou alors... C'est très astucieux. Il y a l'amour adultère de Mars et de Vénus, et qui est transposé ou décrite en termes astronomiques. La planète Mars et la planète Vénus, etc. Alors c'est très complexe. Alors là, j'y comprends rien, mais je suis plein d'admiration. Mais donc voilà une admiration. Enfin, il y a des dans les contes de Canterbury, il y en a qui sont... il y a des contes vraiment, si j'ose dire, parfaits. Par exemple, le conte des trois loupards qui veulent tuer la mort, tuer le trépas. Bon, bah, c'est une bonne petite nouvelle.
On peut en lire
nouvelle.
Un extrait.
C'est le conte du vendeur d'indulgence. Et c'est un conte assez bref,
oui.
mais très... Il y a du suspens parce qu'ils veulent tuer la mort. Et ils se mettent en route pour la tuer. Et en fin de compte, ils s'entretueront en effet eux-mêmes. Donc la mort triomphera. Mais on est très intéressé par l'intrigue.
C'est le conte, j'essaierai de lire un extrait.
Du vendeur d'indulgence. Alors,
voilà, le 440.
Alors, ce qu'il y a d'assez amusant, c'est que le vendeur d'indulgence lui-même est un des rares pèlerins qui soit vraiment condamné par Chaucer entièrement. Parce que ce que Chaucer n'accepte pas, c'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie sociale, par exemple, là, le vendeur d'indulgence est évidemment un hypocrite.
Vous voudriez lire un extrait du texte ?
Ah bon ?
Mais il est là.
Mais me lire moi-même, ça m'arrive rarement.
Non, mais la partie que qui vous...
Mes seigneurs, dans les églises où je prêche, je m'efforce d'atteindre au style sublime, et ma voix gronde comme le gros bourdon. Je sais par cœur tout ce que je vais dire. Je n'ai qu'un unique thème depuis toujours. Radix malorum est cupiditas. Mais son conte, il le dira beaucoup plus tard. Mais ce qui est assez amusant, vous voyez, c'est que le vendeur d'indulgence là, est lui-même un exemple de cette avarice, de cette concupiscence, de cette cupiditas. Alors c'est un peu une espèce de boomerang. Il va prêcher, il va donner un très bon... un très bon conte, pas tellement sur la cupidité d'ailleurs, mais sur les buts, les ambitions ridicules quoi, de ces trois loupards. Et à la fin, voyant son auditoire soulevé d'enthousiasme, il essaiera de vendre des reliques qui sont des os de cochon, etc. Alors donc, là, y a tout, on voit... un peu même grossièrement, on voit la technique des contrastes que Chaucer souligne. Mais là, dans les Flandres jadis, c'était une bande de jeunes gens qui menait folle vie. Jeux de hasard et d'argent, bordels, tavernes, où au son des harpes, luttes et guitares, ils dansent, jouent au dé, le jour comme la nuit, et plus, ils s'empiffrent et boivent sans mesure. Ils se font ainsi officiants du diable, dans les officines du diable, en s'adonnant à toutes sortes d'excès abominables. Leurs jurons sont si gros, si sacrilèges, qu'on frissonnerait rien qu'à les entendre. Ils mettent en pièces le corps du Seigneur, etc. Bon, ben vous voyez là, dans quelques lignes, on a un tableau extrêmement détaillé et qui peut être justement soutenu par beaucoup de témoignages de la société, des tavernes, etc., du Moyen-Âge. Parce que on a le jeu de dés qui était vraiment très, très apprécié, mais très condamné par l'Église, parce que, évidemment, c'était contre de l'argent. Et il y a des contes où on voit les gens se dépouiller de leurs habits, puisqu'ils pariaient même leurs habits. Vous avez les jurons. Là, c'est assez intéressant parce que à partir de l'institution de la fête Dieu, c'est-à-dire de la réalité du corps du Christ dans l'Eucharistie, alors il y a eu tout un mouvement, disons, inverse, où les gens ont juré par le corps du Christ. Et donc, c'est devenu une véritable plaie blasphématoire, évidemment dénoncée par l'Église. Même, par exemple, nos sapristis, ça veut dire par le sang du Christ. Alors donc, vous voyez, c'était énormément de jurons. Donc là, ils mettent en pièce le corps du Seigneur. C'est vraiment un très bon résumé de ces jurons.
Alors en fait, c'est toute l'œuvre a aussi est une véritable source, une mine pour les historiens.
C'est vrai.
Parce que là, ce que vous nous décrivez, ce qu'on en comprend, c'est effectivement la vie telle qu'il a pu en témoigner. Et puis, il y a aussi le côté littéraire, donc, oui, auquel vous avez accordé beaucoup d'importance dans cette édition critique. Cette nouvelle édition des Contes de Canterbury et puis de toutes les autres œuvres, les œuvres complètes là, de Chaucer, qu'est-ce que ça vous a appris, vous qui travaillez depuis des années et des années sur Chaucer?
Oui,
Qu'est-ce que vous avez tiré de cette nouvelle expérience éditoriale?
Ben, je pense, si vous voulez, que c'est à la fois une réhabilitation et aussi simplement un rappel. Le rappel, c'est que pour les anglicistes, quand même, Chaucer n'a jamais été oublié, c'est-à-dire, par exemple, au programme de l'agrégation, de temps à autre, il y a une œuvre de Chaucer, donc il est, disons, connu quand même. Mais réhabilitation, en ce sens que c'est là l'ensemble, ça n'est pas uniquement les contes. Et ça, c'est très important pour l'histoire littéraire, disons, le patrimoine mondial. Bon, d'autre part, je ne suis pas le seul responsable.
Ah bon.
Comme je le dis d'une façon plaisante, nous sommes neuf, comme les neuf preux ou les neuf muses, et même internationaux. Enfin, c'est-à-dire,
c'est une équipe
Belge, il y a un Américain, il y a un Anglais, et puis mes collègues viennent de Nancy, de la Sorbonne, enfin, donc, si vous voulez, c'est un peu une guirlande amicale. Et d'ailleurs, ce qui donne quand même, de même que Chaucer lui-même est très varié, je pense que nos traductions sont elles aussi variées. C'est-à-dire, et même les introductions sont variées. Celle de, par exemple, de Bourquin sur...
De Guy Bourquin, le livre de la Duchesse.
C'est ça, le livre de la Duchesse. Il montre vraiment le travail poétique de déconstruction et de reconstruction de la mémoire, de l'œuvre, etc. Donc c'est une préface que je n'aurais pas écrite moi-même et qui est vraiment intéressante au point de vue de la technique littéraire. Juliette Dore, pour ses contributions, là, bon, moi, insiste sur aussi
le parlement
les
des
jeux
oiseaux.
De mots, le double entendre de certains mots anglais. Bon, c'est possible.
En fait, on a là toutes les dernières recherches scientifiques et les dernières traductions et éditions critiques des œuvres de Chaucer.
C'est un ouvrage que enfin, dont je n'ai pas honte du tout. Enfin, je veux dire, bon, il y a d'abord une bibliographie bien à jour, et à la fois, parce que l'ennui de Shakespeare, de Molière, de tous ces grands auteurs, c'est que on a une bibliographie énorme. Alors, si vous voulez, on s'y perd, c'est vraiment. On perd son temps, surtout. Et là, mes collègues et moi-même, nous avons tenu à donner une bibliographie à jour, mais qui n'est pas exhaustive, qui est vraiment choisie et d'après des critères quand même que je pense solides. Alors, si bien que et le fait que nous avons mis en parallèle l'original moyen anglais avec la traduction pour certains textes, enfin le prologue général et puis La nuit d'amour de Troil et Criseyde, peut intéresser des professeurs ou des gens curieux qui, comme ça, pourront juger à la fois de la fidélité de la traduction et aussi quelle est la langue de Chaucer. C'est bien que c'est un bouquin... qui vaut son pesant de 35 euros.
Merci beaucoup, André Crépin, d'être venu nous parler de Chaucer et de son œuvre et de ses œuvres complètes, trop méconnues, en dehors des fameux contes, mais qu'on a aussi oubliés, qui sont, vous l'avez justement dit, plutôt connus des anglicistes plutôt que du public francophone. Voilà. Alors, à la découverte, pour une fois, de nos voisins britanniques, ce ne serait pas le bon terme, alors je ne sais pas comment dire, anglo-normand, voilà. En tout cas, merci d'être venu nous présenter l'ouvrage. Et je suppose que vous devez avoir avec Michel Zinc des conversations savantes sur cette littérature médiévale, justement, des deux côtés de la Manche. Ça vous arrive d'échanger sur...
C'est vrai, c'est une de mes ambitions et de revaloriser, si j'ose dire, ou de réintroduire les études de l'anglais, du français d'Angleterre, qu'on appelle anglo-normand, mais vous savez que le terme est critiqué, est critiquable. Alors, nous organisons à l'Académie des Institutions et Belles-Lettres une journée d'études anglo-normandes. Alors, nous l'organisons, pour l'instant, il n'y a eu que deux journées, mais j'espère que nous sommes sur les rails de la tradition, et tous les deux ans, nous aurons peut-être cette journée. Parce que autrefois, il y a déjà bien longtemps, au XIXe siècle, il y a eu de grands savants qui ont été des pionniers. Enfin, il y a un pionnier dont on ne connaît pas très bien le nom, Francisque Michel, parce que ce brave homme, brave homme, j'en sais rien, enfin, ce lointain confrère qui était que correspondant. Mais Francisque Michel a découvert, envoyé par Guizot, des manuscrits de première importance. Par exemple, la chanson de Roland, le manuscrit d'Oxford, a été trouvé, édité, peut-être édité comme on le faisait au XIXe siècle, mais édité par Francisque Michel. Donc, si vous voulez, il a été correspondant de notre académie. Un autre grand philologue, alors bien plus sérieux, mais malheureusement venant après lui, donc moins inventeur, c'était Paul Meyer, qui, dans la revue Romagna, a publié beaucoup de textes anglo-normands. Donc, si vous voulez, à la fin du XIXe siècle, il y avait une tradition forte d'études anglo-normandes à l'Académie des Inscriptions. Alors, je pense que, parce que moi-même, malgré le livre sur Chaucer, je suis plutôt spécialiste de vieil anglais, c'est-à-dire d'anglais avant encore la conquête normande. Mais si vous voulez, le vieil anglais, bon, intéresse les anglais, et encore de moins en moins. N'intéresse guère l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est quand même pour le patrimoine français. Alors je pense que l'anglo-normand est un pont, évidemment, entre nos deux pays, et qu'il mérite, pour l'instant, il est surtout pratiqué en Angleterre. Bon, il y a quelques bons spécialistes en France, mais pas très nombreux, et je pense que là, il y a un domaine à faire fructifier et que l'Académie se doit d'être à la tête de ce renouveau.
Bien, merci beaucoup de venir nous présenter ces projets futurs. Merci André Crépin.
Et c'est moi qui vous remercie parce que je pense que cette entreprise, enfin, qui est déjà qui est plus ancienne que mes ambitions anglo-normandes, de Canal Académique, est vraiment une entreprise nécessaire, parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation, de la communication. Alors, il ne s'agit pas de parler entre nous, de publier des actes à usage très limité. Il faut se faire connaître, non seulement pour nous-mêmes, mais pour faire profiter les autres de nos travaux. C'est bien que je remercie beaucoup Canal Académique. Et merci à vous, madame.
Merci.
Thank you.